Vous écoutez France Culture.
Les lundis de l'histoire, présentés cet après-midi par Roger Chartier. L'émission de ce lundi après-midi sera l'occasion d'un dialogue continué, celui que nous avons noué avec Carlo Ginzburg au fil des traductions françaises de ses livres. Carlo Ginzburg est aujourd'hui professeur émérite à l'Université de Californie à Los Angeles et de l'École normale supérieure de Pise. Ses visites au lundi de l'histoire ont commencé en 1983 avec une émission où il avait dialogué à propos de son ouvrage consacré à Piero della Francesca avec deux très chers amis aujourd'hui disparus, Pierre Bourdieu et Louis Marin. Elles l'ont amené ensuite à présenter dans différents lundis de l'histoire plusieurs de ses livres à distance, publié par Gallimard avec pour sous-titre « 9 essais sur le point de vue en histoire », puis plus récemment, deux ouvrages publiés ou republiés par les éditions Verdier, auxquels il est très fidèle, oui. « Le fil et les traces, vrai, faux, fictif » et « Morphologie et histoire, mythe, emblème, trace ». Aujourd'hui, c'est une autre série de trois termes qui nous retiendra « peur, révérence, terreur ». C'est là, en effet, le titre du livre que Carlo Ginzburg vient de publier aux éditions Les Presses du Réel. Ce livre a été traduit par Martin Rueff et a pour sous-titre « Quatre essais d'iconographie politique ». Le propos et la démarche en sont clairement présentés dès le premier paragraphe. Je le cite « Les essais ou tentatives rassemblés ici traitent de thèmes très différents les uns des autres, mais ils sont tous reliés à l'iconographie politique ». L'instrument analytique, continue Carlo Ginzburg, qui leur est commun, est moins évident. La notion de pathos formeln, formule d'émotion, forme d'émotion, proposée, dit-il, par Abby Warburg. Alors je crois, Carlo Ginzburg, d'abord merci d'être là avec nous aujourd'hui une nouvelle fois, et qu'il faut commencer par là, l'objet et la méthode, les thèmes et l'instrument analytique. Je pense qu'il y a plusieurs principes d'unité dans ce livre qui est composé donc de quatre chapitres, de quatre essais qui furent quatre conférences. Et le premier, comme vous le rappelez, c'est des essais d'iconographie politique. Alors, qu'est-ce que c'est l'iconographie politique et quels sont les objets que vous avez traités dans ces quatre chapitres ?
Ce sont des objets très hétérogènes, c'est-à-dire que parfois il s'agit de tableaux célèbres, c'est le cas de Guernica, ou du Marat de David. Il y a aussi une affiche qui est aussi célèbre, cette affiche où on voit Lord Kitchener avec ses grands moustaches et les doigts pointés, « Your country needs you ».
Pour recruter les soldats pour la guerre,
la première guerre mondiale. Mais il y a aussi, disons, quelque chose qui est un peu moins connu, c'est-à-dire le frontispice du Léviathan de Hobbes. C'est célèbre, mais il y a quelque chose à découvrir là-bas. Et je crois que dans ce quatre cas, sont des idées qui me sont venues au fil des années. J'ai eu l'impression de découvrir la réponse, et alors le problème c'était de poser la question. C'est quelque chose qui, à mon avis, se rattache à la structure même de l'essai. La question doit être reconstruite, ou les questions.
Mais ce qu'il y a de commun, le politique, c'est que ces quatre images que vous avez rappelées, une affiche, un frontispice, deux tableaux parmi les plus célèbres du monde, sont au service d'une cause, d'un parti, d'une politique, de manière différente. Mais le terme de politique, pour vous, les englobe.
Oui, c'est-à-dire que évidemment il y a le problème de l'efficacité des images. Et là, nous avons des images qui avaient un but d'efficacité. Dans certains cas, on peut saisir cette efficacité à travers des témoignages très hétérogène. C'est le cas, par exemple, de l'affiche de Lord Kitchener, où on voit un paysan, un écrivain célèbre, etc., qui donne leur témoignage après des années, ou presque tout de suite, sur, disons, la présence menaçante et, disons, imposante de Lord Kitchener dans la ville. Et alors, le cas de l'affiche, c'est évidemment lié à un médium différent, mais Guernica et même le Marat ont été d'abord des tableaux publics, c'est-à-dire exhibés en public. Évidemment, le cas du frontispice de Hobbes est différent. Mais cette idée de se rattacher au corpus politique, à la société en tant que telle, ou, disons, de membres de la société, à travers des images, pour obtenir des effets, c'est quelque chose qui constitue un lien entre ces images.
Alors l'autre lien, c'est vous qui l'établissez, c'est-à-dire cet instrument analytique commun dans les quatre, mobilisé dans les quatre études de cas, et qui est cette notion de forme ou formule d'émotion, de forme pathétique, l'allemand de Pathosformel, et qui empruntait à Abby Warburg. Alors qu'est-ce que c'est que ces formes pathétiques ou ces formules d'émotion?
Oui, alors Abby Warburg, c'est quelqu'un qui a eu une trajectoire intellectuelle et sociale surprenante. Il venait d'une famille qui existe encore, une famille de banquiers, et il a renoncé tout jeune. Alors là, il a plaisanté un peu sur cette histoire. Il avait évidemment une référence biblique à Ésaü et Jacob, etc. Mais il a renoncé à sa primogéniture. Mais ce qu'il a dit à son frère plus jeune, alors je vais renoncer à la banque, mais je vais acheter tous les livres que je veux. Et il a construit cette bibliothèque extraordinaire qui s'est rattachée à ses intérêts de recherche, qui est devenue à Hambourg dans les années 20, disons, un centre de recherche extraordinaire. Et la bibliothèque, après sa mort, il est mort en 1929, justement en coïncidence, c'est la destinée, avec l'écroulement de la bourse à New York. Et après sa mort, son disciple, disons, grand chercheur, Fritz Zaxl, a pu, après la saisie du pouvoir par Hitler, envoyer la bibliothèque en tant que telle, dans son entièreté, de Hambourg à Londres, où elle existe jusqu'à aujourd'hui. L'Institut Warburg est devenu partie de l'Université de Londres, etc. Et il y a une tradition qui se rattache, au fondateur Abby Warburg, qui avait commencé ses études à Florence. Il y avait cette idée, une sorte de parallèle entre les marchands hambourgeois et les marchands florentins. Et il a fouillé les archives de Florentin et il a écrit des essais tout à fait extraordinaires.
Et alors le point de départ, puisque à la fin du 19e siècle, puisque sa thèse sur Botticelli date de 1891, il se consacre à la Renaissance italienne, Botticelli, puis par exemple le sépulcre familial ou le tombeau familial des Sassetti à Florence, et il est frappé par le fait que les formes ou les formules qu'on y trouve sont déjà présentes dans des témoignages artistiques de l'Antiquité, que ce soit des vases ou que ce soit des sculptures, des monuments funéraires. Et c'est le point de départ de sa réflexion.
Oui, c'est-à-dire que alors il était frappé par cette continuité, ou presque, parce qu'il y a eu aussi discontinuité, c'est-à-dire une perte pendant le Moyen-Âge et une redécouverte. Et il parlait de la décharge d'énergie qui était liée à ces formules, formules de pathos, formules d'émotion extrêmes. Et alors j'ai essayé d'une façon assez rapide dans l'introduction de approcher cette notion de pathos formeln chez Abby Warburg en essayant de retrouver la façon dans laquelle il l'a découverte. Et c'est assez drôle parce qu'il a découvert à travers un livre qu'il a lu et qu'il avait passionné, c'est-à-dire le livre de Charles Darwin, L'expression des émotions chez les hommes et chez les animaux. Et là, à un certain moment, Darwin cite un texte de Reynolds, le grand peintre anglais du XVIIIe siècle, où Reynolds dit « les extrêmes se touchent, les extrêmes de l'émotion, la bacchante orgiastique est tout à fait semblable dans sa façon d'exprimer son émotion à l'extrême de la douleur chez Marie-Madeleine. » Et, disons, c'est cette idée qui a été reprise par Warburg et qui n'a jamais cité Reynolds, mais il a, disons, réfléchi sur cette notion. Et alors j'ai essayé d'utiliser cet instrument analytique dans ces quatre essais. L'idée qu'il y a des formules et que ces formules impliquent, on pourrait dire, en citant Warburg, une décharge électrique d'énergie iconique, et que pour essayer de comprendre ces formules, il faut les replacer dans une histoire qui est parfois très longue.
Mais alors du coup, voilà, c'est la question centrale qui est posée par Warburg et peut-être à lui-même, et que vous soulignez dans ce texte et dans beaucoup d'autres, qu'on retrouverait dans un petit livre qu'a écrit notre collègue et ami José Emilio Borugua, L'histoire, l'art et la culture, avec un sous-titre de Abby Warburg à Carlo Ginzburg,
donc nous sommes amicales.
Dans la familiarité, et qui est que comment comprendre ces réemplois, puisque que dans le cas de Warburg, il y a une première manière de les comprendre et qu'il avait figuré sous l'expression « le retour à la vie des anciens ». Et donc du coup des transmissions historiques, une récupération, et comme vous le dites, après une période d'oblitération durant la période médiévale, on est en plein dans une problématique historique, mais la lecture de Darwin pouvait le conduire aussi dans une autre direction, c'est-à-dire l'idée qu'il y avait finalement un patrimoine de formes et formules disponibles pour l'humanité, si on poursuit Darwin, parce que certaines formes ont survi plus que d'autres, mais que finalement, elles n'ont pas un contenu ou une réalité immédiatement historique. Elles renverraient beaucoup plus à une forme anthropologique au sens premier, et donc, du coup, à une perspective qui n'est plus celle de l'histoire, mais qui est celle de la morphologie. Alors, comment Warburg articule, oppose ou finalement ne répond pas à la possibilité de les lier par rapport à ces deux approches?
Je crois que là, on est vraiment au cœur de l'approche de Warburg et d'une tension qu'il a essayé de maîtriser, mais que, à mon avis, fait partie de ce qu'il y a de plus vivant dans son œuvre. C'est-à-dire cette tension entre une morphologie achronique et, ahistorique, et une approche historique, contextuelle, etc. Et c'est-à-dire qu'il a commencé, disons, comme je disais, en fouillant les archives de Florence, etc. Évidemment, l'approche était historique et contextuelle. Par contre, chez les derniers Warburg, il y a ce projet qu'il appelait Mnemosyne. C'était des grands tableaux avec des photos. Et, disons, ce qui rattachait ces photos, ce n'était pas le contexte, disons, historique, mais, disons, un côté purement morphologique. Moi-même, je dois dire, j'ai été inspiré par Warburg. Vous venez de citer les sous-titres d'un livre qui est apparu en français aussi, qui s'appelait, d'essais que j'ai publié, qui s'appelait « Morphologie et histoire ». C'est-à-dire que cette tension entre morphologie et histoire et la possibilité d'utiliser la morphologie en tant que instrument de travail pour l'historien, c'est quelque chose qui ne va pas de soi, mais à mon avis, a des possibilités très intéressantes. Alors, on pourrait dire que, et là, je reprends votre suggestion pour ce qui concerne Darwin, qu'il y a, disons, un éventail de possibilités inscrites dans notre corps, dans notre appareil sensoriel, etc. Mais il s'agit de possibilités qui sont peut-être nécessaires, mais pas suffisantes. Et alors, disons, ce qui fait l'écart, ce qui, aboutit à une possibilité pas seulement formelle, mais réelle, à une réalité, c'est l'histoire. Et là, il y a, disons, une transmission historique qu'il faut essayer de reconstituer.
Mais c'est un problème qu'on rencontre très souvent dans votre travail. D'abord parce que certains objets particuliers que vous avez traités, par exemple le fait que dans beaucoup de civilisations ou de temps, on a utilisé un double funéraire. Il y a le cadavre et puis il y a une effigie qui le représente, qui lui en est le substitut. Dans l'essai que vous aviez consacré à ces doubles funéraires et qu'on trouve dans le livre à distance que j'ai signalé dans l'introduction, vous dites, mais comment les interpréter? Le fait qu'on trouve ces doubles dans les royaumes incas, chez les Grecs avec le Colossoï, chez les Romains de la période des Antonins, et puis dans les périodes plus récentes, si j'ose dire, les monarchies françaises et anglaises des 15e, 16e siècle. Et vous dites, comment les interpréter? Devons-nous les renvoyer à des caractéristiques universelles du signe et de l'image ou à un milieu culturel spécifique? Donc c'est la question, vous la posez pour un objet particulier, puis finalement on a l'impression que dans une réflexion que vous aviez proposée, vous la posez sur les différents objets que vous avez traités. Puisque de côté, je rappelais Piero della Francesca, il y a un travail en histoire de l'art, et où l'orientation est plutôt de suivre avec une minutie étourdissante les différentes intermédiaires. Et puis d'autre côté, il y a les livres pour lesquels vous êtes aussi très bien connus, comme le Sabbat des sorcières, Storia Notturna, dans lequel cette histoire des religions ou cette analyse en termes de folklore fait pencher plutôt du côté d'une approche morphologique, c'est-à-dire de reconnaître indépendamment des contextes, indépendamment même des fonctions, des unités qui sont comparables. Vous dites d'ailleurs dans ce livre-là que vous avez toujours essayé de penser contre Lévi-Strauss, mais que vous devez bien reconnaître à la fin du parcours qu'il y a des constantes et des invariants anthropologiques. Alors, est-ce que c'est un miroir de Carlo Ginzburg qu'on peut voir dans la tension de Abi Warburg?
Oui, c'est-à-dire qu'évidemment, je me suis profondément inspiré à l'œuvre de Warburg. Et je pense que cette tension entre morphologie et histoire, c'est quelque chose sur laquelle j'ai réfléchi et j'ai continué à réfléchir. Peut-être ce que je viens de dire, c'est-à-dire distinction entre, disons, ce qui est potentiel et ce qui devient réel, ça pourrait être l'objet d'une étude de cas différents. Mais évidemment, il y a quelque chose qui revient, mais ce que je refuse, c'est, disons, une solution facile à la Jung. Il n'y a pas d'archétype. C'est une réponse qui nous laisse sur notre faim.
Donc c'est cette manière-là de tenir les deux. Vous écriviez dans ce petit livre aussi qui accompagne notre émission, Mythe, Emblème, Trace, une autre trilogie. Vous écriviez quelque part, j'ai été conduit à me demander d'une part ce qui rendait possible la construction d'une série fondée sur des données stylistiques, les œuvres attribuées à Piero par exemple. De l'autre, ce qui rendait possible la construction d'une série de mythes ou de rites analogues, indépendamment de leur contexte et de leur physionomie les plus manifestes. Et c'est comme si vous considériez deux aspects dans le travail fondés sur le même principe, c'est-à-dire de construire des séries. Il ne s'agit pas ici de construire des séries statistiques, mais des séries de représentations iconographiques ou des séries de mythes, cultes et croyances. Et d'autre part, ce qu'il y a de commun aussi, c'était évidemment de le faire à partir d'indices qui sont laissés comme traces de ces phénomènes historiques et culturels. Mais on a l'impression que parfois, c'est une manière de lire les deux aspects de votre travail. Et d'autres fois, c'est parce que le même objet est susceptible des deux lectures.
Oui. Lorsqu'on parle de séries, il faudrait peut-être mentionner aussi une série basée sur les données stylistiques. Parce que Warburg était en fait hostile aux connaisseurs, etc. Il n'aimait pas du tout Berenson ni Morelli. Mais disons, je crois que ce qu'il a dit sur les séries iconographiques, on peut le déplacer et repenser à partir des données stylistiques. Et parce qu'il y a, disons, de ressemblances formelles qui renvoie peut-être à un contexte commun ou peut-être pas. Là, le connaisseur est le connaisseur morphologue, tandis que l'historien, c'est quelqu'un qui travaille sur des contextes, mais qu'il doit, à mon avis, apprendre soit de Abby Warburg, soit de, disons, Roberto Longhi. C'est-à-dire un historien de l'art qui était obsédé par, disons, la connoisseurship, par la possibilité de reconstituer des personnalités stylistiques.
Alors revenons peut-être pour achever cette première séquence sur ce que vous les formes du pathétique, puisque là il s'agit d'un cas particulier qui est de repérer comment des gestes représentés sur des vases ou sur des sarcophages ou sur des tableaux expriment des passions extrêmes, des émotions extrêmes. Et dans la forme la frénétique, frénésie de l'extase, dans le cas de la ménade, de la bacchante, et une sorte de frénésie de la douleur, dans le cas de Marie au pied de la croix. Alors comment comprendre le fait de ce réemploi, c'est-à-dire qu'il peut inverser, c'était l'intuition de Reynolds, cité par Darwin, qui peut inverser les significations données aux formes. Est-ce que du coup, ça met en question l'idée morphologique, puisque ici, c'est la même forme, mais c'est des sentiments très différents, voire opposés ? Ou est-ce que ça oblige, corollairement, à une approche historique qui recontextualise ? Et à partir de ce moment-là, fait que c'est le contexte de signification qui l'emporte sur le repérage de l'identité.
Alors, je dirais, d'un côté, on peut essayer d'établir dans chaque cas s'il s'agit d'une bacchante ou d'une Marie-Magdalène. Mais la question reste, c'est-à-dire, pourquoi il y a cette ambiguïté des images ? Alors là, je pense qu'il y a un grand problème, qui est un problème qu'il faudrait essayer d'aborder en utilisant ces données historiques aussi. Mais c'est quelque chose qui se rattache à la psychologie, peut-être. Au langage aussi, c'était un peu l'idée de Freud qui avait utilisé des données linguistiques douteuses. Mais ce problème de l'ambiguïté, c'était quelque chose qui était au cœur de son entreprise. Alors, l'ambiguïté existe. Alors, il faut être simpliste pour, disons, nier ça. L'ambiguïté existe. L'ambiguïté, disons, qui soit dans les images, soit dans les gestes, soit dans les mots. Évidemment, c'est les contextes qui nous protègent parfois, pas toujours, des malentendus. Mais l'idée que l'ambiguïté fait partie de la communication humaine et aussi de l'expérience humaine, à mon avis, c'est quelque chose qui pose une question très importante.
Je crois que c'est ce que nous allons rencontrer dans la deuxième partie de ce dialogue et qui sera consacrée aux études de cas, aux études d'images que vous proposez dans ce livre. Alors, pourquoi ce Paseo de l'Ebre, le passage de l'Ebre, un chant républicain fameux de la guerre d'Espagne? Parce que dans le livre qui nous retient ce matin, le livre de Carlo Ginzburg, Peur, Révérence, Terreur, quatre essais d'iconographie politique, le dernier chapitre est consacré à peut-être le tableau le plus connu du monde entier, de l'universel public, c'est-à-dire le Guernica de Picasso. Et je crois qu'on peut commencer par là, même si c'est le dernier chapitre, dans la mesure où on y voit que ce que vous mettez en œuvre dans les quatre études de cas, c'est-à-dire l'intérêt pour un détail, souvent passé inaperçu ou commenté de manière très rapide, et d'autre part, comme vous l'avez dit, la question. Vous aviez la réponse peut-être par le détail, mais quelle question ? Et là, il me semble que, évidemment, la question que vous posez, c'est qui peut surprendre les auditeurs, c'est que le tableau est dénué de toute allusion politique directe. C'est-à-dire le fait que c'est un tableau qui est peut-être l'icône du tableau politique antifasciste et dont la lecture minutieuse que vous en faites vise à montrer que rien dans ce qui est montré, donné à voir, peut avoir immédiatement un sens politique. Alors, comment se lit l'analyse du détail, et quel détail vous aviez retenu dans ce tableau? Et d'autre part, cette question assez troublante.
Et alors, je disais auparavant que dans ce quatre cas, mais c'est quelque chose qui m'est arrivé souvent, je commence par une réponse et il faut essayer de reconstruire la question. Alors, dans ce cas, la réponse a été la suivante. J'étais à Marseille pour la première fois de ma vie et je suis entré dans le musée des Beaux-Arts et j'ai vu un tableau énorme que je ne connaissais pas et je dis « Guernica ». C'était les tableaux de Topino Lebrun. Il y avait un témoin qui peut rappeler ça. Et disons, cette réponse était une réponse paradoxale, parce que évidemment c'était, disons, une analogie purement formelle.
Parce que le tableau représente la mort de...
C'est la mort des Gracchus, les tribuns romains, qui va être tué par un esclave, et évidemment un tableau politique, parce que, comme j'ai découvert tout de suite, ce tableau peint par Topino Lebrun faisait référence à Gracchus Babeuf, c'est-à-dire Babeuf, évidemment, le théoricien du communisme agraire, avait pris ce nom de référence en tant que manifeste politique. Et, disons, après la condamnation à mort de Babeuf, il y a eu ce manifeste à peine voilé, manifeste politique de Topino Lebrun, qui lui-même, après quelques années, a été, disons, condamné à mort sur la guillotine parce qu'il est impliqué dans une conspiration contre Bonaparte. Alors, un tableau politique, mais ce qui m'a frappé tout de suite, ça a été, disons, la ressemblance formelle, c'est-à-dire cette construction en frise. Et ce qui m'a amené à repenser, à regarder Guernica un peu à distance. Si vous voulez, c'est la familiarité qui a été, disons, la première victime de cette recherche. C'est-à-dire cette prise de distance par rapport à un tableau que tout le monde connaît, que moi-même, évidemment, connaissais, même si je dois dire que, après l'avoir vu et revu en reproduction, lorsque j'ai vu les tableaux pour la première fois à Madrid, ah, c'était un choc extraordinaire. Et alors, reconstituer un peu l'effet de choc, replacer les tableaux Guernica dans son contexte. Alors là, évidemment, on voit ce paradoxe, c'est-à-dire le fait que, disons, cet élément politique n'est pas si évident que ça. Et j'ai essayé de reconstruire les contextes où les tableaux, les murales ont été exhibés pour la première fois, qui était un contexte nettement politique. Et aussi, il y a ce que nous savons et ce qui fait de Guernica un cas tout à fait exceptionnel et qui avait été perçu depuis longtemps. C'est-à-dire le fait que sur ces tableaux, nous savons beaucoup de choses. C'est-à-dire les processus du tableau nous est connu.
À la fois les esquisses et puis d'autre part des photographies.
Exactement. Prises par Dora Maar et la compagnon de Picasso. Et c'est-à-dire que nous avons les esquisses datées, ce qui est très impressionnant. Et en fait, je commence justement par un texte de Picasso où il dit « Mais pourquoi je date tout ce que je fais ?» Parce que je pense que ça pourrait aboutir un jour à quelque chose qu'on pourrait appeler la science de l'homme. C'est bizarre, hein? C'est bizarre. Venant de quelqu'un... Mais il faut dire qu'il maniait les mots d'une façon remarquable, hein? Pas seulement les images.
Mais puisqu'il ajoute à cela aussi qu'il progresse par destruction.
Destruction, oui.
C'est-à-dire que l'état précédent est disparu, mais en même temps laisse... Oui. Une trace. Et pour vous, c'est une des raisons, c'est un des mécanismes de l'explication de cette apolitisme d'un tableau suprêmement politique. C'est-à-dire le fait que le premier projet, puisqu'on rappelle que le tableau a été fait pour le pavillon de la République espagnole, acculé et agressé depuis le coup d'État de Franco de 1936, là on est au printemps de 1937, et que donc il est là comme une incarnation de cette défense de la République qui se trouve avec une circonstance supplémentaire, c'est-à-dire le bombardement et le massacre de Guernica le 26 avril 1937, lourdement chargé. Et donc, comme la commande était antérieure au bombardement, vous rappelez que le premier projet de Picasso n'était pas de peindre quelque chose qui aurait un rapport, ne fût-ce que par le titre, avec la situation politique.
Oui, c'est un tableau. Le premier projet se rattachait à un thème qui était familier à Picasso et qu'il a continué à travailler là-dessus, c'est-à-dire les peintres et son modèle. Mais ce qui a gardé, il y a quelque chose qui a été gardé, c'est-à-dire le format. Ce qui a suggéré ensuite le frise. Et alors, ce qui pouvait impliquer un renvoi à l'Antiquité, etc., etc. C'est-à-dire que ce qu'on voit, ce sont de choix qui posent des contraintes,
Et vous dites d'ailleurs qu'au-delà du format de la frise qu'il avait choisi pour cette peinture de l'atelier, certains gestes, et là on arrive au détail, puisque vous commencez avec... évidemment, à la radio, il est difficile de parler des tableaux, mais peut-être que Guernica, beaucoup d'auditeurs l'ont en mémoire, il y a une femme qui tient une lampe avec un bras qui s'avance, et qui est un réemploi d'une figure qui était présente dans l'esquisse sur l'atelier du peintre.
Oui, alors il y a ce geste, et dans mon livre, j'ai fait une comparaison, c'est-à-dire entre ce geste de la femme avec une lampe et une photo célèbre de Picasso en train de peindre Guernica. C'est-à-dire, c'est le geste du peintre, c'est le geste de quelqu'un ou une femme qui jette une lumière sur quelque chose. De deux côtés, on peut dire qu'il y a un geste qui est le geste de la connaissance, etc., etc. Et oui, je me rappelle que lorsque j'ai donné cette conférence la première fois à Berlin, j'ai montré les deux images. Ah, il y avait un petit choc, parce que ce sont des images, c'est une comparaison qui parle. Mais qu'est-ce qu'elle dit ?
Alors ça, c'est la question, mais vous posez la question, on peut vous la retourner, c'est-à-dire comment interpréter le fait que ce tableau qui, dans son origine, peut-être le réemploi d'un tableau qui n'aurait eu rien de politique, qui emploie une esthétique néoclassique, vous le dites, la forme de la frise, on entre de la droite vers la gauche, alors tout un chaînon de ces, depuis Poussin jusqu'à Topino-Lebrun, des tableaux qu'a pu voir Picasso et qui peut lui servir de modèle. La question que vous posez, c'est comment comprendre que ce tableau, non seulement peut-être dans la tradition de sa réception, icône de l'antifascisme, mais peut-être dès 1937, le lieu où il est montré, acquiert une signification politique si puissante, si forte, alors que rien, par exemple, à la différence des Goya, le 2 mai, le 3 mai, sont des tableaux dans lesquels les agresseurs et les victimes sont représentés. Ici, il y a des victimes, mais pas d'agresseurs. Et puis, d'autre part, il est difficile de déchiffrer une signification politique littérale à chacun des motifs. Comment se fait cette transmutation ?
C'est-à-dire que, alors là, on peut suivre le processus à travers, les croquis, les photos, etc. Et on voit par exemple qu'à un certain moment, Picasso a effacé un geste qui était un geste politique, c'est-à-dire la poignée.
Le poing levé, oui.
Le poing levé avec
le guerrier qui est sur la partie gauche.
Oui. Et alors, le poing levé qui était, le poing levé du geste de la tradition communiste. Et alors, il avait ça, et ensuite, il a effacé. Et pourquoi ? Et les agresseurs, on peut dire, il n'y a pas d'agresseurs parce qu'il y a eu bombardement, c'est-à-dire, sont les civils, même si il y a les guerriers. Avec, l'épée cassée, il y a quelque chose de mystérieux. C'est-à-dire que ce tableau qui est si familier à tout le monde, a des côtés ambigus et obscurs. Des références, justement, c'était c'est le titre de mon texte, je crois, que j'ai gardé, c'est-à-dire l'ampoule, c'est-à-dire la référence au contemporain, et l'épée brisée, c'est-à-dire la référence au monde classique. Et alors, ce contraste, qu'est-ce que ça signifie ? Et alors, j'ai essayé de reconstituer des contextes pour ce qui concerne, par exemple, l'attitude à l'égard du classicisme, de la tradition classique dans les années 30, dans la gauche antifasciste, etc. Et de l'autre côté, j'ai essayé de proposer des hypothèses qui se rattachent au rapport entre Georges Bataille, qui a écrit sur Picasso, dans cette remarquable revue qui s'appelait « Documents » et dont il était l'un des directeurs, et Picasso lui-même. Et alors, disons, je termine en citant des textes de Bataille qui se rattachent justement à la guerre d'Espagne et à la confrontation entre les fascismes et, les puissances antifascistes, évidemment quelque chose de très mélangé, et où il y avait, selon Bataille, foncièrement, l'affrontation entre deux césarismes, il dit, encore une fois, une référence à l'Antiquité classique, c'est-à-dire les césarismes soviétiques et les césarismes des fascistes. Et alors, j'essaye de montrer que, disons, certains textes de Bataille donne peut-être une clé pour comprendre le paradoxe iconique de Guernica.
Mais on voit comment ce chapitre-là particulièrement, mais l'ensemble de votre livre, peut être lu aussi en rapport avec, en relation avec un livre que nous avons présenté ici le mois dernier, qui est le Manet, il y a les cours sur Manet donnés par Pierre Bourdieu, puisque la question qui est posée là, c'est... quelle est l'intention du peintre et est-ce que ça a une importance dans la mesure où on voit que le contexte immédiat connote ce tableau comme la dénonciation d'un massacre, mais d'un massacre qui a des victimes et des bourreaux. Et donc le sens est immédiatement donné par cela, dans le pavillon espagnol, entre les deux monumentaux pavillons de l'Union soviétique et du nazisme. Et finalement, est-ce que Picasso a une intention particulière ou est-ce que finalement toute cette histoire de la peinture que vous restituez, de celle qu'il a pu voir, et vous posez la question, est-ce qu'il a jamais vu Topino Lebrun ? Est-ce que comme vous, quand il est allé à Marseille, il est entré ou non dans ce musée ? Comment cela peut être à Bourdieu essayer de désigner ça comme l'état pratique ? L'immédiateté du geste, c'est-à-dire qu'il ne suppose pas nécessairement le raisonnement, la référence au musée intérieur, mais des formules qui trouvent une solution, enfin, ou des solutions qui sont trouvées dans des formules incorporées. Alors, quel est le statut que vous donnez entre l'intention de Picasso, si tant est qu'on puisse jamais la déchiffrer ou l'expliciter, et puis d'autre part, le fait que, dans un sens, quoi qu'il ait peint, le contexte faisait que c'était un tableau qui était politiquement connoté.
À mon avis, il y a des intentions. Nous sommes familiers avec ça. Nous avons des intentions qui, normalement, n'aboutissent pas à ce que nous cherchons. Mais ces intentions sont, au fond, insaisissables. Si... elle se matérialise dans un croquis ou un tableau, disons un propos, c'est autre chose. Alors, dans le cas de Guernica, évidemment, on peut dire qu'il y a, une série de photos et de croquis qui impliquent un processus. Alors, le cas est tout à fait exceptionnel parce que normalement, ce processus est tout à fait inconnu, invisible. Tandis qu'ici, on peut dire, oui, alors il a choisi ça, il a fait ça. Pourquoi ? J'ai pas de réponse. Évidemment, il faut formuler des hypothèses, mais j'ai pas de réponse. Ceci dit, il s'agit d'une trajectoire qui n'est pas linéaire, mais il y a, comme Picasso lui-même disait, continuité et discontinuité. Et ça, on peut le souligner. Des ruptures, mais des continuités aussi. Et alors, par exemple, sa culture, picturale. Évidemment, c'est un problème. Pour lui, c'était quelqu'un qui était obsédé par, la peinture du passé, des contemporains. Sa relation avec Matisse, par exemple, c'est-à-dire cette tension, cette lutte, il y a ce côté agonistique très impressionnant. Et évidemment, on ne peut rien comprendre de sa peinture si on ignore les contextes pluriels, c'est-à-dire soit, le contexte contemporain, soit son rapport avec la peinture du passé. Il y a cet élément froid chez lui, qui se rattache à Ingres, qui est tout à fait crucial. Ingres, David, mais au-delà de David, Ingres. Et alors il y a ce côté froid, glacé. À mon avis, oui, ça c'est vraiment au cœur de son entreprise picturale. Et ensuite, il y a quelque chose qui se rattache aux deux peintres, c'est-à-dire le fait qu'il dessinait d'une façon extraordinaire. C'est-à-dire que son habileté technique, c'était, un obstacle. Et si vous voulez, l'opposé, c'est le cas tout à fait opposé, c'est celui de Cézanne, qui était extrêmement gauche. C'est-à-dire que ce peintre extraordinaire avait une main gauche, lourde. Ceci dit, il a peint des tableaux extraordinaires, mais chez Picasso, c'était l'opposé. C'est-à-dire qu'il était obsédé par l'Académie, son père aussi, les calques, et il a essayé de surmonter ça.
Alors, le temps nous manquera pour entrer dans les deux chapitres qui sont consacrés, enfin les deux essais qui sont consacrés, l'un au marat expirant de David et l'autre au doigt pointé vers le spectateur de Lord Kitchener. Donc, je renvoie les auditeurs qui vont devenir lecteurs de ces deux chapitres. La démarche est la même, c'est-à-dire s'attacher à un détail, reconstituer une tradition où l'on retrouverait ces mêmes gestes et on y découvrira des surprises, par exemple, pour David, tout à fait mobilisant des références chrétienne pour ces deux tableaux. D'ailleurs, celui sur le pelletier de Saint-Fargeau expirant ou mort, le cadavre, et celui sur Marat, ou bien dans le cas de Lord Kitchener, puisque, comme vous le rappeliez au début, cette image a souvent été commentée par ceux qui en ont laissé témoignage comme créant une sorte de terreur pétrifiante. C'était l'une des expressions, pour deux raisons. L'un, parce que ce doigt pointé en perspective avait une force considérable d'impact, et d'autre part, parce que le regard de Lord Kitchener, peut-être en réalité, mais en tous les cas de Kitchener, mais dans l'image, était comme un omnivoyant. C'est-à-dire que où que l'on soit, il vous regardait. Et vous développez vous déroulez les deux généalogies, celle de ces regards omnivoyants dans la peinture et celle des doigts pointés qui peuvent être des réemplois, évidemment, de toute une tradition renaissante et chrétienne. Juste en parlant, parce que j'aimerais qu'on termine sur le titre du livre. La question, c'est qu'à tout moment, le lecteur se la pose, puisque vous l'avez initié à Herbie Warburg, il dit, mais est-ce qu'il est bien utile de faire toutes ces généalogies, puisque finalement, peut-être, le doigt pointé et le regard omnivoyant rêveraient à des invariants universels et qu'on pourrait les trouver, les faire réapparaître sans même que l'artiste ou le publiciste ou celui qui a fait l'affiche ait dans la tête ou dans l'esprit toute cette tradition que vous avez, Carlo Ginzburg.
Alors, dans ce cas, par exemple, en fait, j'ai essayé de reconstruire une tradition qui est longue, très longue, et qui peut-être
n'était pas... Dans le cas de Lord Kitchener.
Oui, qui peut-être n'était pas familière, au peintre qui a dessiné l'affiche. Mais j'ai aussi trouvé quelque chose, une image qui se rattache à quelque chose de différent, c'est-à-dire le monde de la publicité, et qui, à mon avis, c'est une preuve, ce que j'appellerais en français « smoking gun », un pistolet qui fumant.
Oui. Qui était l'expression qu'on employait pendant la guerre d'Irak, mais il fallait toujours trouver les fameuses armes chimiques et le smoking gun.
Ce qui, évidemment, c'est toujours...
Le fusil fumant était...
Oui, c'est ça.
Mais enfin, on ne l'a jamais retrouvé. Donc,
oui, tout à fait.
Ça peut vous inquiéter.
Il n'y avait pas de preuves. Dans ce cas, je pense que j'ai trouvé quelque chose qui se rattache d'une façon très spécifique à cette idée de, disons, à l'idée qui est derrière l'affiche. Aussi parce que j'ai trouvé cette image qui est vraiment impressionnante, avec un type avec, qui pointe une cigarette. Et je l'ai trouvé dans un texte publié, je crois, peu avant la Première Guerre mondiale, où on parlait de la publicité en tant que guerre commerciale. Alors, si vous voulez, là, on est, disons, tout à fait près, je dirais, de la certitude. C'est-à-dire que, à mon avis, ce qu'on peut regarder comme un but, c'est l'idée de déplacer le poids de la preuve sur nos opposants. Alors, si quelqu'un m'a dit... Non, il n'y a pas de relation entre ces deux images, c'est-à-dire la publicité et Lord Kitchener. Je dirais, tu dois le prouver.
Alors, on revient peut-être au titre du livre, une de ces trilogies que visiblement vous affectionnez, parce que beaucoup de vos livres ont ces trois termes, sans virgule entre eux. Une série, une séquence, peur, révérence, terreur. Ce qui nous renvoie au premier essai, où bien sûr l'image est présente, un frontispice, d'ailleurs deux frontispices, l'un sous une forme dessinée, remis en exemplaire pour le souverain, et puis d'autre part le frontispice imprimé du Léviathan, de Hobbes, et d'autre part... une analyse qui commence là avec un détail qui est un mot. Et ce mot, vous le rencontrez dans une traduction que Hobbes a fait de Thucydide, La guerre du Péloponnèse, livre 2, chapitre 53. C'est une allusion à la peste d'Athènes, 429 avant Jésus-Christ, et qui a créé dans la cité un état d'anomie, de désordre, de soif de plaisir immédiat, de profit sans délai. Et si l'on traduit plus littéralement le passage, la traduction en français, c'était « Nul n'était retenu, n'était réfréné par la crainte des dieux ni par les lois humaines ». Et lorsque Hobbes traduit ce passage, la traduction de sa traduction en anglais, c'est un exercice difficile, serait plutôt celle-ci « Ni la peur des dieux, ni les lois des hommes ne remplissaient qui que ce fût de crainte ». Mais immédiatement, vous commentez le fait que le mot qu'il emploie en anglais, qui est difficile à prononcer, Ove, je vais d'ailleurs l'épeler, A-W-E, qu'on rencontre dans Awful ou dans Awesome, a un sens beaucoup plus complexe et plus difficile à cerner que crainte, puisque tous les emplois que l'on peut en trouver avant Hobbes renvoient toujours à une ambivalence, c'est-à-dire c'est la peur et la vénération, c'est la terreur et la révérence. Et à partir de là, pour vous, ce détail, ce mot dans une traduction de Thucydide permet d'entrer dans la théorie politique de Hobbes au plus profond, c'est-à-dire les conditions de l'obéissance au pouvoir.
Voilà. C'est-à-dire que là, je pense que j'ai trouvé cet écart. Hobbes avait commencé justement avec cette traduction et ça a été, disons, son entrée dans le Respublica Literaria, dans le monde de la littérature. Et il y a eu cet écart. Et je pense que cet écart est quelque chose qui révèle quelque chose. En fait, j'ai comparé ce texte, ce détail de la traduction avec d'autres textes dans le Léviathan où il y a ce mot « oh » en tant que, disons, mot central pour qui se rattache à cette hypothèse sur la construction de l'État. Et alors, il y a ce double aspect, c'est-à-dire, disons, la peur et la vénération. En fait, dans le mot « révérence », il y a « vereor ». Il y a ce mot latin qui est lié à la peur, mais c'est une peur religieuse, ou presque. Et alors là, on est, disons, tout près, je crois, de préoccupations profondes de Hobbes et ce sont aussi des préoccupations qui sont très présentes pour nous, c'est-à-dire ce phénomène troublant qui est la sécularisation, qui est quelque chose qui évidemment n'est pas un phénomène pacifique, c'est quelque chose qui implique des tensions de guerre, de attaques. Et alors, il faut, à mon avis, essayer de utiliser ce cas d'iconographie politique pour repenser cette idée des sécularisations en tant que phénomène ouvert. Là, évidemment, on est sur un terrain très glissant et très discuté. Et je pense que, évidemment, la tradition française nous aide et nous aide pas. Il y a quelque chose de très spécifique, évidemment, dans la tradition française. Et je pense que c'est difficile à traduire, par exemple, dans les contextes américains ou italien ou n'importe quoi. C'est-à-dire que, d'abord, parce que, évidemment, la révolution a posé, ouvert des problèmes à un champ de... Et je me rappelle que dans votre livre sur les origines intellectuelles de la Révolution française...
Culturelle, pardon.
J'ai cité Mornay.
Et voilà.
Oui, culturelle. Et justement, vous avez cité une page magnifique de Tocqueville où il disait justement qu'il y a eu d'un côté des christianisations et de l'autre côté, il y a eu cette ouverture vers un espace rempli par une religion nouvelle. Alors je pense que là, vraiment, on est tout à fait près de quelque chose qui, évidemment, a été posé d'une façon très forte, unique dans le cas de la France, mais... c'est quelque chose qui concerne tout le monde.
C'était une idée aussi de Quinet dans son grand livre sur la Révolution. Et que vous, qui lit pour vous l'essai sur Hobbes et l'essai sur le Marat de David. Puisque le cas de la construction de Hobbes, c'est que pour mettre fin à l'état de nature où c'est la guerre de tous contre tous, il faut une fiction qui est cet état Dieu mortel, mais qui en fait occupe l'espace, substitue, récupère ce qui était lié au Dieu immortel, et en particulier la relation avec ce Dieu immortel. C'est pour ça qu'on voit bien que dans le texte, on pourrait presque parler de peur révérentielle ou de vénération terrorisée. Et les trois termes que vous donnez dans votre titre, on peut les mettre dans une combinatoire. Ça m'a d'ailleurs fait penser à des commentaires de Louis Marin sur Pascal, c'est-à-dire le fait qu'il y a une force.
Oui, parce que c'est... y a ce texte magnifique de Pascal, les fourrures,
exactement,
etc.
Donc il y a une force, mais elle est en réserve. Et les conditions de l'obéissance sont produites par l'imagination. Alors dans le cas de Hobbes, elles sont produites par ces relations de vénération, de révérence, mais en même temps de peur et de terreur par rapport à une fiction et qui est l'État.
Oui, vous venez de citer ce mot fiction, qui est un mot utilisé par Hobbes aussi, qui est un mot crucial, qui renvoie à ce texte magnifique de Tacite, « Fingunt simul credunque ». Ils feignent et ils croient à leur fiction. Alors là, il y a, à mon avis, il y a peu de textes qui nous viennent de l'Antiquité qui sont aussi troublants que celui-là. C'est quelque chose qui va au cœur de quelque chose qui est au centre de notre relation avec la réalité politique, la réalité religieuse, le fait que nous sommes les dupes de nous-mêmes. Et justement, j'ai essayé de réinterpréter ce texte qui était très connu et très familier à Hobbes pour essayer d'interpréter les deux versions du frontispice de Hobbes.
Non, mais oui, alors je pensais parce que dans l'introduction, vous dites, pratiquement, c'est une sorte de parallèle avec la citation latine, nous sommes subjugués, nous, aujourd'hui, nous sommes subjugués par des mensonges dont nous sommes nous-mêmes les auteurs. Oui. C'est une réadaptation, un déplacement sur le contemporain de cette magnifique, terrible citation. Alors, pour revenir, le détail, on l'a vu, c'est le mot, la traduction avec ce « hove » et cette terreur révérente et qui, du coup, va entraîner cet écart ou se traduire dans un écart entre un frontispice sur l'exemplaire de dédicace ou de présentation pour le roi, le souverain. Peut-être que certains auditeurs ont en tête le frontispice d'Hobbes, c'est-à-dire que le corps de cette fiction, le Léviathan, est fait de petits visages, de multiples petits visages d'hommes avec leurs yeux. Et dans le cas du premier frontispice, il regarde le spectateur, et vous dites d'ailleurs qu'un des auditeurs de votre conférence vous a suggéré que ce spectateur pouvait être le roi. Ouais. C'est-à-dire qu'il regarde directement, alors que dans le frontispice imprimé, c'est plus le cas. Qu'est-ce qu'ils font?
Ouais.
qu'est-ce qu'ils font dans
mais,
le fantasy
mais il y a toujours ça, c'est-à-dire le
ils regardent, que, le, oui. ils regardent le, la fiction qu'ils ont construite. Oui. Vous dites, la myriade d'hommes regarde vers le haut avec un air de crainte et de révérence l'homme artificiel qui existe grâce à eux, le Léviathan qu'eux-mêmes ont construit à travers le pacte qui les lie les uns aux autres.
Oui, oui. Alors, ce qui a permis cette lecture, c'est un détail. Là, je dois citer le mot célèbre de Abby Warburg, Dieu, c'est dans les détails. C'était une plaisanterie sur le proverbe, c'est le diable qui est dans les détails. Mais les dieux aussi, dans le sens que, disons, un son profond qu'on peut saisir à travers de détails infimes, minuscules, soit, disons, dans du côté pictural, soit du côté littéraire, etc.
Et dans ce cas-là, c'était le fait que l'illustration, dans un sens, non seulement de la théorie politique de Hobbes et les conditions de l'obéissance, mais c'était aussi l'illustration de cette... de tacite à ce que vous écrivez, c'est-à-dire le fait de la fiction que l'on regarde et à qui l'on accrédite d'un poids de vérité.
Oui, ils font partie physiquement de cette réalité, mais ils la regardent comme quelque chose qui est détaché par rapport à eux.
Alors c'est très, on terminerait avec ça, le fait qu'on a vu que le livre avait une cohérence qui lui était donnée par le fait que les quatre études de cas se référaient aux politiques, à une image qui doit produire un effet, que d'autre part il y avait, c'était comme un leitmotiv, une tension permanente entre la morphologie des gestes qui sont dans un patrimoine hérité de l'humanité et d'autre part des contextes extrêmement précis qui les assignent. Mais il y a une troisième intention que vous venez de montrer, ou un troisième principe de cohérence qui est de réfléchir sur le présent, mais pas de face, pas directement.
Oui, d'une façon oblique. C'est-à-dire que je pense qu'il faut essayer de regarder le présent, mais en essayant de garder une distance critique, ce qui n'est pas évident. Et alors, je pense que, si vous voulez, ces études des cas peuvent nous aider à penser quelque chose qui est tout près de nous.
Et alors, le point, c'est que vous dites la sécularisation ne s'oppose pas à la religion, elle en envahit le terrain. Mm. Et alors du coup, c'est l'exemple de Hobbes, puisque le dieu mortel, qui est la fiction de l'État, va occuper le terrain du dieu immortel. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais le lecteur le découvrira, votre analyse du Marat de David, qui est saturé de références chrétiennes, est aussi une manière de transfert de sacralité, est aussi une manière, vous dites, d'envahir la sphère du sacré, donnant légitimité au pouvoir républicain. Et pour vous, c'est une leçon pour le présent aussi. Mais pourquoi ? Est-ce que ça veut dire que la sécularisation n'en est pas une ? Ou est-ce que vous évoquez plutôt directement les résistances à cette sécularisation et qui crée là, que, évidemment, beaucoup de trames de conflits du contemporain?
Oui. Alors, c'est-à-dire que j'avais commencé à travailler, par exemple, sur Guernica avant le 11 septembre. Et je me rappelle que lorsque j'ai donné mon cours, mon séminaire à UCLA après 11 septembre 2001, j'ai choisi Machiavel. Parce que je pensais que, disons, la réflexion de Machiavel sur la religion civile, etc., était au cœur de quelque chose qui continue même aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un processus pacifique. Il y a eu des compromis. Ces compromis peuvent être longs, mais ça continue.
Merci Carlo Ginzburg. Je rappelle que l'émission de cet après-midi était consacrée à votre livre « Peur, révérence, terreur, 4 essais d'iconographie politique », un livre publié par les presses du réel. La technique a été assurée par Pascal Bénard, la réalisation de notre émission par Anne Depelchin. Le prochain lundi de l'histoire, la semaine prochaine, le 30 décembre 2013, sera présenté par Philippe Levillain sous le titre « Histoire d'une crise ».